Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine Abdel-Fadel et Sophie Villeneuve remettent un bonnet d'âne à Catherine Dorion pour confusion et au ministre des Forêts, Pierre Dufour, pour sa langue résineuse. Alors qu'un méritas pertinence va à Véronique Yvon et François Legault, lui, est félicité pour ses excuses sincères de fin de session à Manon Massé. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
C'est pas moi qui dis ça.
Mais
c'est
bonjour, Thomas Mulcair.
Salut, l'autre barbu.
Oui, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur avec le chroniqueur au journal. Ce matin, tu nous parles de religion et politique. C'est indissociable dans ton esprit.
Ah, mais tout à fait. Ça revient très souvent. Puis dans les pays les plus développés démocratiquement, il y a des garanties profondes pour la liberté de religion. Mais en même temps, dès qu'il y a un problème, c'est très facile de voir les réactions. Je donne l'exemple d'après le 11 septembre aux États-Unis. Oh boy, il y avait des groupes religieux qui portaient des signes qui pouvaient être confondus avec la religion musulmane. Je me souviens, c'était un homme sikh dans un état du Midwest qui était une des premières personnes tuées parce que quelqu'un pensait qu'il s'en prenait à quelqu'un d'une autre religion. Donc, ça n'a pas de bon sens ce que l'on vit quand même dès qu'il y a un soubresaut. Mm-hmm. Mais je mentionne, par exemple, que les catholiques, bonne chance de devenir chef d'État du Canada, parce que même si on a eu de très nombreux premiers ministres catholiques, rappelons que notre chef d'État, c'est le roi ou la reine, selon le temps, d'Angleterre.
Eh oui.
Et donc, c'est intéressant de s'apercevoir que c'est tout le temps là. Je donne, par exemple, une analyse du fait que le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord à interdire à un jeune homme sikh de devenir policier, avoir une loi qui fait ça, qui dit mm-hmm. qu'un jeune homme sikh ne peut pas devenir policier, un juif qui porte la kippa ne peut pas devenir procureur, ou encore une jeune femme qui porte un foulard ne peut pas devenir institutrice. Donc, c'est un exemple. Puis, cette semaine, il y a eu beaucoup de ça dans le vent.
Oui.
Et je pensais que c'était important de rappeler qu'il n'y a rien de nouveau que la religion et la politique.
Mais ce qu'il y a de nouveau, Tom, c'est l'amalgame honteux qui a été fait par Justin Trudeau à la suite de questions de journalistes du reste du Canada au sujet d'un lien. Comment on peut lier l'attentat en Ontario, donc ce qui est arrivé à London et la loi 21, c'est ça que plusieurs personnes au Québec n'ont pas compris?
Ben, en fait, c'était plus que ça, parce que les termes utilisés par le chef du Bloc, notamment, étaient assez durs à son endroit. Puis il a réussi, en essayant d'éviter de froisser qui que ce soit, j'oserais dire, cher Antoine, qu'il a réussi à froisser tout le monde.
Oui.
Parce que tu viens de donner un côté de la médaille, puis le terme employé par Blanchette était tout sauf tendre ou parlementaire. Mais de l'autre côté, les gens disaient, mais Trudeau, si t'en as vraiment contre la loi 21, t'aurais pu faire comme tous les autres premiers ministres avant toi, dès qu'il y avait des grandes questions de la Charte des droits, le ministère, le procureur public, le ministère de la Justice, le procureur général, envoyait des avocats pour défendre son point de vue.
Mais ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi on parle de ça, alors que c'est un attentat qui, on sait même pas par quoi encore il est motivé, on n'y a pas eu d'enquête.
D'après les informations de documents de la Cour, parce qu'il y a d'autres documents dans d'autres procès concernant ce jeune homme-là, et de ce qu'on décode de ces documents-là, il avait des troubles de santé mentale qui avaient été déjà documentés. Donc, c'est une évidence qui vaut la peine de clairer l'air tout de suite. Il n'y a évidemment aucun lien de causalité entre ce qui se passe au Québec et ce qui s'est passé à London, en Ontario. Point à la ligne. Et même, c'est intéressant parce que c'est un ancien candidat conservateur qui avait combattu et gagné l'investiture contre un musulman dans London. Lui, il a fait une sortie pour dire que London était vraiment empreinte de beaucoup de racisme et de sentiments anti-musulmans. Et c'est une ville que je connais bien parce que pour avoir été chef de l'opposition, tu voyages beaucoup. On avait au NPD Irene Matheson, sa fille maintenant, a pris sa place comme députée là-bas. Et donc, je connaissais très bien la communauté musulmane là-bas. Et je peux aussi te dire qu'ils ont été fortement côtoyés lors des dernières élections parce que c'est une vieille communauté musulmane qui est là depuis des générations dans de nombreux cas. Ils sont très bien installés. La mosquée devant laquelle ils ont apparu l'autre soir, si tu as écouté les discours, c'est la deuxième plus ancienne mosquée au Canada, pour donner une idée. Donc, c'est une vieille communauté bien établie et ce qui est arrivé là-bas est un meurtre de sang-froid de quelqu'un qui, de toute évidence, a des troubles de santé mentale et point à la ligne.
Ça fait penser un peu à Alexandre Bissonnette. C'est-à-dire qu'Alexandre Bissonnette, juste après l'attentat de Québec, plusieurs ont dit « les radios de Québec ont du sang sur les mains » en sautant aux conclusions. Or, quand on a étudié les ordinateurs de M. Bissonnette, et quand ça a été présenté en preuve au procès, on s'est rendu compte qu'il n'écoutait pas les radios de Québec, qu'il s'abreuvait aux Trumpistes qui étaient pour un Muslim ban, donc aux États-Unis.
Oui, très intéressant comme comparaison. Oui, très intéressant comme comparaison. Oui, je trouve ça...
Donc, on aime épingler les radios de Québec. On en a profité avec l'attentat pour épingler les radios de Québec. Ben là, c'est un peu la même chose qui est arrivée. On aime épingler la loi 21, donc on a fait un lien un peu bric-à-brac avec ça.
Ce sont les éditorialistes qui en parlent le plus, mais ce sont les gens qui font les dessins, les caricatures d'éditoriaux qui peuvent le résumer le mieux, parce que ce matin, Chapleau dans la presse a quelque chose d'assez drôle. C'est qu'il y a des fleurs à London, il y a des fleurs autour du site des meurtres, et tu as toutes les caméras qui pointent vers le Québec. Alors ça, je pense que ça le résume bien.
Mais à l'ajoute, l'autre jour, j'avais comme l'impression que tu embarquais un peu là-dedans, que tu accréditais un peu cet amalgame-là.
Je suis très content que hier, Paul Larocque m'a posé la question directement. J'étais à même de répondre exactement comme je viens de te dire là. C'est évident qu'il n'y a aucun gain de causalité. Par ailleurs, ça n'empêche pas qu'on peut étudier et débattre de la loi 21. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont dit des sornettes d'un bord que ça nous empêche d'avoir une bonne discussion de fond sur cette loi-là, parce que je continue d'être fermement opposé au projet de loi 21.
Mais c'est une loi. C'est une loi maintenant. Elle est adoptée.
La loi 21. Parce que c'est un travers d'anglophone, parce que le mot « bill » reste même pendant 25 ans.
Okay.
Alors, la loi 21. Pardon. La loi n'a jamais porté le numéro 21 pour compléter l'idée, mais c'est justement encore le numéro de quand c'était un projet de loi. Mais passons. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que en termes de religion et de politique, il y a quelque chose d'intéressant qui se trame de ce temps-ci à Ottawa. C'est passé largement sous le radar, mais à leur plus récent congrès, il y a quelques semaines maintenant, le NPD a adopté des résolutions qui, dans le paysage politique canadien, passent pour assez anti-Israël et ont été remarquées et commentées très négativement dans plusieurs milieux à travers le Canada. Voilà que hier, on apprend que la députée du Parti vert, qui s'appelle Janica
Atwin,
du Nouveau-Brunswick, traverse le plancher pour aller chez qui? Au Parti libéral.
Ça, c'est surprenant.
Qui est Janica Atwin? C'est une des trois députées du Parti vert.
C'est ça.
On a toujours Elizabeth May, dont le comté est en Colombie-Britannique. Il y a un autre britanno-colombien du nom de Manning qui a des positions très tranchées anti-Israël, bien documentées. Et bien que lui, dans cette histoire-là, il est un petit peu plus en sourdine. Mais Atwin, il y a encore une couple de semaines, lorsqu'il y avait le plus récent conflit Israël-Gaza, tu vois pas qu'elle commence à utiliser le mot-clic, le hashtag Israel Apartheid, et elle commence à vraiment développer Israël, puis elle attaque sa chef, Annamie Paul.
Non. Carrément.
Donc, juste en passant, que ce comme dirait l'autre, not that there's anything wrong with that, mais la chef du Parti vert est la seule chef de parti de confession juive au Canada. Et, oui. en fait, la première chef de parti de confession juive depuis David Lewis au NPD il y a 40 ans.
Ah oui, OK. Donc, ça fait longtemps, là. Ça, mais oui.
45 ans. Donc, ça, c'est intéressant parce que depuis hier, il y a une vive réaction archi-négative chez des groupes bien structurés comme CIJA. Donc, ça, c'est l'officiel des communautés juives à travers le Canada. Il y a aussi B'nai B'rith, organisation qui est là depuis un siècle, et des gens qui étaient déjà des députés libéraux, eux, ils sortent pour attaquer Trudeau. En fait, il a envoyé Dominique Leblanc, parce que c'est Nouveau-Brunswick, pour l'accueillir à bras ouverts. Mais la réaction est très vive. Donc, dans un premier temps, on pourrait supposer que si ça chauffe beaucoup, Trudeau va se raviser et laisser tomber Jenica Atwin, prétextant qu'il n'avait pas tout lu de ce qu'elle avait écrit. Bien que c'est pas vrai qu'ils vont pas avoir tout lu. Et c'est ce deuxième point qui m'amène à poser la question suivante. À la lumière du fait que beaucoup de progressistes, même si je suis archi opposé à ces résolutions du NPD avec signe contre l'Israël, parce que je trouve que ça penche juste un bord,
oui.
Mais admettons qu'il y a quand même pas mal de progressistes et de gens au Canada qui aiment bien la position de Singh, disant que le NPD est le seul parti à se tailler ces positions-là.
Mm-hmm.
Voilà que les libéraux ne laisseront jamais une chance au NPD de se ressusciter. La majorité de Trudeau dans l'élection qui s'annonce au mois de septembre ou octobre, la majorité de Trudeau passe par le fait qu'il puisse aller chercher le plus grand nombre de votes NPD possible.
Mm-hmm.
Alors moi, je suis très intrigué de suivre ce dossier-là parce que est-ce que Jenica Atwin n'est pas un cheval de Troie pour Trudeau pour essayer de rentrer chez les NPD pour dire « Non, non, moi aussi, je suis très tolérant des gens qui ont des positions anti-Israël. »
Mais ça peut lui faire perdre une partie de la communauté juive qui est déjà pas mal du côté d'autour, des conservateurs.
Dans le GTA, là, le Greater Toronto Area, on parle de presque 50 sièges, dont au moins une demi-douzaine peut être largement décidée par une importante communauté juive très bien structurée.
Mm.
Stephen Harper avait fait quelque chose. Il est le seul et unique chef de parti non libéral, à ma connaissance, à avoir réussi à aller chercher un appui de la majorité de la communauté juive tellement que ses positions en faveur d'Israël étaient tranchées. Il était vraiment attaché à toute la position. Il était là tout le temps que Netanyahou prenait ses positions les plus dures. Et là, lui puis Netanyahou, ils étaient un. Donc, ça a été apprécié. Les libéraux ont réussi, au cours des deux dernières élections, à aller renouer avec cette communauté-là. Et ils avaient quelques membres bien en vue de la communauté qui ont été élus pour eux autres.
Mm-hmm.
Mais voilà que ce jeu-là, puis, comme je mentionne dans mon article dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, politique, la religion n'est jamais loin.
Mais
oui. Et bien, ce dossier-là de Jenica Atwin, est-ce que les libéraux vont subir trop de chaleur et la laisser tomber, ou est-ce qu'ils vont l'utiliser comme manière de dire aux électeurs qui aimaient bien les positions du NPD, nous aussi, on est capable d'avoir des positions qui coupent avec la majorité qui concerne les Israéliens.
Alors, ça boucle bien la boucle et je reprends le titre de ta chronique de ce matin, « Religion et politique, rien de surprenant ».
Exactement là.
Merci.
À très bientôt. Là.
Merci Thomas Mulcair, le barbu.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
C'est l'heure des bulletineuses de la colline. Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel sont au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, Jean.
Bulletineuse, car avec elle, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnets d'âne et nos méritas. On est alternativement gentils et méchants. Cette semaine, ben, c'est la dernière semaine de travaux parlementaires. Donc, on va avoir des méritas et des bonnets d'âne particuliers. Et nos bulletineux, je le rappelle, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et comme disait Yves Bolduc...
C'est Yasmine qui décide.
Alors, c'est Yasmine qui décide. Yasmine, qui commence? Ton premier méritas.
Je commence. Écoute, Antoine, pour nous, là, aujourd'hui, fin de session parlementaire, c'est l'équivalent du bye-bye. Puis je commence avec le premier méritas à Marc Tanguay. Marc Tanguay a tout de même réussi à faire dire à Simon-Jolin Barrette que le nouveau ministre de l'Économie, qui est le ministre des Finances, Éric Girard, était le plan B du gouvernement. Ça, c'est bon dans une joute parlementaire de faire dire à quelqu'un que son collègue, c'est un plan B. Il s'est vite rendu compte de son erreur puis du lapsus, puis même aujourd'hui, il essayait encore de se racheter de sa bourde d'hier. Donc, méritas à Marc Tanguay pour avoir fait glisser Simon-Jolin Barrette.
Bien. Sophie, maintenant, méritas panier percé ou œuf dans le même panier?
Mais Véronique Thibault qui a emprunté une formule que j'ai trouvée quand même assez efficace pour bien définir comment se comporte le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.
Véronique Thibault, c'est ça?
Oui, Véronique Thibault, députée du Parti québécois, porte-parole en matière de famille, qui est une parlementaire redoutable, faut le dire, Véronique Thibault, et qui est une adversaire à Mathieu Lacombe, qui doit l'empêcher de dormir le soir parce que elle sait toujours où pointer, elle sait toujours où aller. Et là, la situation dans nos CPE au Québec, ça va pas en s'améliorant. Les conditions de travail des éducatifs sont souvent pointées. La pénurie aussi dans ce secteur d'activité-là qui est peu valorisé. Pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte parfois qu'on voit même des parents être obligés d'aller faire des temps de pause dans les CPE tellement il n'y a plus d'éducatrices.
Mais oui.
Et là, Véronique Thibault, qui vous dit que le ministre met tous ses œufs dans le même panier par rapport notamment à la maternelle 4 ans, puis que le panier du ministre est percé. J'ai trouvé que cette formule qui était efficace. Félicitations, méritante à Véronique Thibault.
Bien. Maintenant, premier bonnet d'âne, soyons méchants un petit peu quand même. On le sera pas beaucoup aujourd'hui. mais c'est Yasmine quand même qui a un petit bonnet d'âne à remettre, mais je le trouve très intéressant. Confusion.
Ben,
bonnet d'âne, confusion.
Quoi? Pour la députée de Taschereau de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui était complètement confuse cette semaine, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai essayé de voir où est-ce qu'elle voulait en venir avec sa question à propos du troisième lien. Je la comprenais pas vraiment. Catherine Dorion mériterait à ajuster finalement ses prises de parole au Salon Bleu pour que ce soit pas comme une lecture d'un poème. Elle ponctuait finalement toutes ses interventions avec la même phrase. Est-ce que le ministre me suit?
Oui.
Mais pour te suivre, Catherine Dorion, c'est quoi qu'il est supposé dire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de nous expliquer ici?
Ouais.
C'était très confus. On comprenait pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et j'espère qu'elle s'attendait pas à ce que le ministre Bonnardel lui dise « Ben oui, Catherine Dorion, on va arrêter le troisième lien, puis t'as bien raison, on va tout mettre des pistes cyclables sous tunnel entre Lévis et Québec.
» Non, c'est ça, mais je trouve que dans cette attaque contre le troisième lien, je trouve que Québec solidaire, jusqu'à maintenant, vraiment rate beaucoup de choses. Ils pourraient mettre en avant certains de leurs concitoyens, de leurs commettants qui vont être touchés directement. Pensons, par exemple, au bas de Dufresne, là, on pourrait avoir des sorties d'autoroute. C'est pas rien. Il y a des gens qui vivent là. Même affaire...
En fait, on les a fermés, ces sorties, ces bretelles d'autoroute-là. Là, on pense bien, ça fait pas si longtemps.
2007, c'est ça. Puis ça a pris des mois. Ça a été très dur. D'ailleurs, j'ai une connaissance qui habite là et qui m'a raconté que ça avait été très dur, la poussière, tout ça. Imaginez, il faudrait reconstruire tout. Puis après ça, ça serait permanent des autos. Mais pourquoi Québec solidaire ne va pas chercher?
Ils perdent des occasions.
C'est ça, exact. Ils perdent des occasions. Pourquoi ils ne citent pas ou pourquoi amènent-ils pas des gens à l'Assemblée nationale, des gens qui vont être affectés? Imaginez, dans Saint-Sauveur, là où il va y avoir la sortie d'autoroute proche d'Exposition, l'électricité, il va sans doute y avoir deux énormes tours d'aération, un peu comme Hippolyte Lafontaine. Allez voir ça, là. C'est affreux et ça pue. Je veux dire, pourquoi ne pas aller voir les gens qui habitent là puis leur dire, voilà, vous avez des victimes du troisième lien, il y en a. Non, Mme Dorion préfère faire, comme tu l'as dit, Yasmine, des espèces de questions en birlificotées. Vraiment, le bonnet d'âne est mérité.
Je trouve qu'on est beaucoup plus dans le spectacle que dans la proposition et la solution concrète. Puis moi, je pense que ça va finir par leur revenir au visage tel un boomerang, tout ça.
C'est ça.
Parce que Québec solidaire, les partisans sont, règle générale, des gens qui aiment voir les solutions proposées, qui aiment voir des alternatives et pas juste la joute politique.
Bonnet d'âne, maintenant, c'est Sophie qui le remet, un bonnet d'âne suffisance.
Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec, qui a été... le leader de l'équipe B tout au long de la dernière année, et qui se lève souvent dans une posture en répondant aux questions, comme si elle trouvait que son interlocuteur était niaiseux. C'est moi où Geneviève Guilbeault est un peu suffisante dans ses réponses. Et là, cette semaine, quand elle est interpellée sur des exercices de transparence, bon, les sondages, puis le gouvernement qui va beaucoup chercher le pouls de la population, elle aurait pu trouver des manières de répondre qui explique que le gouvernement est soucieux de l'opinion de la population. Mais non, plutôt que ça, elle se braque. Puis là, elle dit, non, on est transparent. Mais elle n'a pas vraiment d'argumentaire.
Oui, Yasmine?
Sophie, penses-tu que le premier ministre, avec les sondages qu'il a commandés, on savait que Geneviève Guilbeault faisait partie d'un... Elle faisait partie des personnes que, dont le premier ministre voulait savoir comment la population réagit. Penses-tu que c'est son côté un petit peu suffisant, un petit peu arrogant, que le premier ministre voulait savoir comment la population prend ça? Parce que moi, j'aimerais ça, avoir accès à ces résultats. Oh mon Dieu, je suis très prêt.
Oui.
J'imagine qu'on n'est pas les seuls à le remarquer.
Soyons gentils. Maintenant, Méritas numéro 2. Yasmine, tu as un Méritas pour le. Un Méritas bloc.
Au premier ministre du Québec qui s'est levé en chambre puis qui a une petite partie du judo qu'il a fait avec Pascal Bérubé qui, pour une autre fois, s'est levé pour la langue française puis pour dire que la réforme proposée par la CAQ n'est pas assez. Et c'est là que François Legault dit « Mais le Bloc est d'accord. Vous devriez parler au Bloc, au fédéral qui a dit qu'il était d'accord avec la réforme. » Ça, je trouve que c'est une bonne attaque de la part de François Legault. Mais on va se le dire franchement, le Bloc est devenu une succursale de la CAQ plus qu'une succursale du PQ.
Bien envoyé. Moi, si vous me permettez, je remets un méritas patience à Pierre Arcan, qui a posé sa première question après des mois d'absence cette semaine. Mmh. Ça m'a fait plaisir de revoir l'ancien chef intérimaire du Parti libéral, homme sympathique, qui méritait peut-être une punition pour son voyage à la Barbade en pleine COVID, mais aussi longue, je me pose la question. Allons à Sophie maintenant, qui remet un méritas bagarreuse. À qui?
Ben, Isabelle Charest, bon, c'est bon, bagarreuse, j'utilise un peu le contexte. Cette semaine, en pleine série d'éliminatoires finale de la Coupe Stanley dans la Ligue nationale, il y a eu un coup vicieux là, qui a été donné à Jack Evans du Canadien de Montréal. Ça fait l'objet un peu de discussion là, sur les règles encadrant la violence au hockey.
Oui.
Et Enrico Ciccone, qui a été dans sa carrière précédente, Enrico Ciccone, qui est porte-parole en matière de sport pour l'opposition officielle, le Parti libéral, c'était un bagarreur quand il jouait au hockey. Donc, tu sais, de le voir lui se lever et venir réutiliser cette opportunité-là pour dire que ce serait à la ministre de venir intervenir dans les règles de régie de la Ligue nationale de hockey, c'est un peu particulier.
Ben Sophie, je suis pas d'accord avec toi. Le coup vicieux, c'est celui que Isabelle Charest a assigné à Enrico Ciccone. Enrico Ciccone s'est levé pour dire qu'il est temps de mettre fin à la violence au hockey en connaissance de cause, parce que lui-même a souffert plusieurs fois de commotion cérébrale.
Ben oui, c'est un bagarreur repenti. C'est un bagarreur repenti.
Faute avouée est à moitié pardonnée. Isabelle Charest, elle aurait dû saisir la main tendue de Enrico Ciccone, qui était cette fois tendue et c'était pas un coup de poing, et travailler avec lui pour mettre fin à la violence au hockey. C'était le dernier épisode de violence qu'on a vu de Jack Evans, là, ça nous a tous brisé le cœur de voir que
mon Dieu, ça avait pas de bon sens.
Le sport national est finalement un forum de
gladiateur.
De gueule à, ouais, et de gladiateur, ça n'a pas de bon sens. C'est pas l'image qu'on veut donner à nos enfants.
Non, exactement. Pendant que tu as la parole, Yasmine, et que tu es gentille, tu veux remettre un méritas numéro 3 au premier ministre.
Ben oui, ben là je gâte le premier ministre en cette fin de session là, puis je vais lui donner un méritage pour le coup à Pascal Bérubé, puis là je lui en remets un autre. On aime regarder les vœux de fin de session, puis aujourd'hui c'était les vœux qui clôturaient la session actuelle. François Legault, quand il a pris la parole, premièrement il était très drôle. Moi j'aime regarder ça parce que c'est le moment où on voit le côté plus humain des politiciens. Et il a dit à Manon Massé, il s'est excusé auprès de Manon Massé pour son caractère bouillant, pour le fait qu'il ait manqué de patience à certains moments. Et en plus de ça, la petite blague qu'il a faite, c'est il lui a dit, ben je le fais à vous parce que pour les deux autres chefs, je les connais, j'ai déjà travaillé avec eux.
Oui.
En parlant de Pascal Bérubé et Dominique Anglade, très bien envoyé, sens de l'humour, sens de la répartie, méritas. Pour le premier ministre.
Ah oui, c'était un bon...
pour le moins sympathique.
Oui, il était sympathique. Il disait, je m'excuse d'avoir été raide, mais je tiens à rassurer les journalistes, pas parce que je suis fatigué. Il a aussi dit à Manon Massé, on a comme développé un lien de confiance, un espèce de troisième lien.
De troisième lien.
Je pense que c'était le meilleur clin d'œil de la période de questions d'aujourd'hui. Alors, en terminant, chère bulletineuse, pour la session parlementaire, vous allez remettre un méritas et un bonnet d'âne pour toute la session. On commence par Yasmine.
C'est Yasmine qui décide.
Mon méritas, c'est à Christian Dubé. Christian Dubé a incarné la constance, il a incarné la persévérance. Et je dois le dire, il a été très créatif, innovateur dans le paquebot qu'est le ministère de la Santé. Moi, personnellement, comme citoyenne et comme passionnée de politique, je me sentais en confiance lorsque j'entendais Christian Dubé prendre la parole. J'aimerais vraiment lui décerner ce méritage et lui espérer finalement un été durant lequel il va pouvoir se reposer parce qu'il l'aura mérité.
Sophie, un méritage pour l'ensemble de la session maintenant. À qui?
Moi aussi, je le remets à une ministre du gouvernement, Sonia Lebel, qui s'est retrouvée au Conseil du Trésor et qui a eu à régler des conflits de travail puis à venir convenir d'une entente, puis ça chemine assez bien là. Mais au-delà de tout ça, Sonia Lebel a été la pompière en chef du gouvernement tout au long de la session, à savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un dossier qui était complexe, qui était litigieux, c'était Sonia Lebel qui se levait puis qui venait répondre aux questions, que ce soit par rapport au féminicide, que ce soit par rapport... Tous les sujets étaient bons pour que ce soit Sonia Lebel qui se lève et qui vienne mettre un couvercle sur la marmite.
D'ailleurs, aujourd'hui, Gaétan Barrette qui a essayé de dire que ça finirait par miner sa crédibilité à Sonia Lebel d'être comme ça la pompière du gouvernement. Donc, parfois, les pompiers se brûlent.
Je ne suis pas en accord avec Gaétan Barrette, mais ça, c'est pas la première ni la dernière fois.
Maintenant, les bonnets d'âne pour l'ensemble de la session. Alors, on commence par Yasmine.
Mon bonnet d'âne pour la...
Générale.
Ouais, Isabelle... Générale. Ouais, c'est Isabelle Charest. Puis ça va peut-être vous faire sourciller, mais cette semaine-là, on est quand même au 12e féminicide. Et on dirait qu'on commence à s'habituer. Puis le rôle de la ministre responsable de la condition féminine, c'est un rôle d'être présente, de dénoncer et d'être dans l'action. François Legault l'a un peu sauvé en nommant Geneviève Guilbeault à la tête du comité pour faire la lutte au féminicide et aux violences faites aux femmes. Mais là, c'était un avertissement. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a compris le message. Donc, Isabelle Charest mérite le bonnet d'âne de la session, mais je suis pas mal sûre qu'elle va être capable de se racheter.
Bonnet d'âne, Sophie, en terminant, rapidement.
Bonnet d'âne à Pierre Dufour, ministre responsable des forêts, qui, pour l'ensemble de son œuvre, à chaque fois qu'il s'est élevé, puis on l'a dit, puis on le répète, tout le monde se mettait aux abris. Je veux dire, tout le monde avait peur de qu'est-ce qui allait bien nous inventer.
Et encore cette semaine. Encore cette semaine, Sophie, il a dit à Émilie Lessart-Terrien qu'il y avait des bonnes questions bien ramassées, qu'il allait faire un petit peu d'éducation auprès d'elle.
Ça veut dire que son collègue, Benoît Charette, est obligé de se lever pour le venir à sa rescousse. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Vite, déplacez-nous ça de là, c'est une honte.
Si, il est l'unique membre de notre temple de la renommée des bonnets d'âne.
Oui, il y a un bonnet d'âne permanent.
Perpétuel.
Merci infiniment, les bulletineuses. C'était un plaisir pendant toute cette session d'analyser les périodes de questions et donner des bonnets d'âne et des méritas à nos politiciens. Je vous souhaite un bel été. Salut.
Merci.
Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce vendredi. Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi!
Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com.
Cube Radio.